Mon cœur est brisé, je sais pas comment réagir. Depuis que le match est fini, là, depuis le 27e retrait, je sais plus quoi penser. Moi, je trouve que nos partisans sont des partisans extraordinaires. Là, il est trop tard, là. Moi, je sais que Montréal, c'est une ville de baseball. En tout cas, moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont encouragé, qui sont venus à un match des Expos. Je peux pas croire que c'est fini, là. Je peux pas.
Ça, wow. C'est Claude Raymond, le 29 septembre 2004, et c'est un honneur de l'avoir avec nous au bout du fil. Bonjour, M. Raymond.
Hey, Claude.
Bonjour, M. Raymond.
Bonjour, ça va bien? C'est mon receveur qui est là, là?
Oui, monsieur, le one and only. Puis je comptais au boys tout à l'heure.
Bonjour, tout le monde.
Je comptais au boys tout à l'heure que, tu sais, t'as encore du pop dans ta balle, tu sais. Puis, OK, on a joué à la balle, là, t'as 88, je pense. T'avais 80 ans ou dans les environs de 80 ans. Puis, de temps en temps, il y en avait une par en haut. Là, ça popait dans le mythe encore là, à 80. Là, c'était impressionnant.
Pas ben, un coup réchauffé, ça
reste. Ouais. Ah, ben, c'est le fun, ces tournées-là. Là, c'est le fun, vraiment.
Dans quel contexte vous êtes lancé
là-bas? Avec les anciens Canadiens, on avait des anciens des Expos aussi qui jouaient avec nous. On jouait des matchs de balle un petit peu partout au Québec. On est allé virer au Lac-Saint-Jean, un petit peu partout, tout ça. Puis, il y avait Steve Rogers qui jouait. Tu sais, t'avais Derek Aucoin.
Derek Aucoin.
J'étais là, Derek Aucoin avait joué des matchs avec nous aussi. Je pense que Mark Griffin était venu avec nous également, là. Steve Rogers, tu sais, fait que les histoires de hockey, les histoires de baseball, le voyagement.
Ah, ça devait être le fun.
Tu sais, puis Claude, il me contait, là, tu sais, quand il a commencé dans le baseball dans les années 50, là, puis il voyageait en autobus, puis il arrivait dans les villes, puis il me contait c'était quoi, là, dans ce temps-là, tu sais, il y avait... T'sais, les Noirs dans ce temps-là, les Blancs, il y avait vraiment, là, c'est... Il y avait un hôtel pour les Blancs. C'était vraiment, là, wow! Wow!
Les restaurants pour les Blancs, puis les Noirs pouvaient pas y aller. Puis...
C'est incroyable, pareil.
C'est fou, ça. Ouais. C'est
le... Ah non, mais c'est ça. Même Hank Aaron est obligé de coucher ailleurs, tu sais.
Hey, Hank Aaron.
Incroyable. On parlait des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball. Monsieur Raymond, j'étais pas vieux en 2004, mais comme bien des jeunes de mon âge, je suis convaincu qu'on a tous les images gravées dans la mémoire du dernier match des Expos au Stade Olympique, et particulièrement de vous. Je me souviens, vous étiez sur le terrain. C'est comme si vous refusiez de quitter avec votre uniforme. Ça vous a arraché le cœur, hein, le départ des Expos?
Ben, moi, j'ai passé 50 ans de ma vie dans le baseball professionnel. Comme joueur, comme analyste à radio, à TV, comme instructeur. Puis là, tout à coup, là, vous rentrez au Stade Olympique un matin, puis 4-5 heures plus tard, après avoir passé 4-5 heures à analyser tous les joueurs de l'organisation des Expos, des instructeurs avec Frank Robinson, puis le gérant général, là, on nous annonce que c'est fini. Là. T'sais, moi, là, ça a été un choc pour moi. Là, puis quand vous avez un travail puis que vous aimez ça puis que ça fait 50 ans, le lendemain quand vous vous réveillez là, hey, c'est un coup de massue en plein sa tête, ça là.
Ah, c'est sûr et certain. Puis là en plus, il y a un documentaire qui vient de sortir qui a tué les Expos. Vous conservez-vous une certaine rancœur envers des acteurs impliqués dans le dossier au fil des années qui a mené justement au déménagement des Expos vers les Nationals de Washington? Pointez-vous des gens du doigt que c'est cet élément-là ou c'est cette personne-là qui a fait en sorte qu'on a perdu nos amours?
Ben, c'est sûr que Claude Brochu est responsable de beaucoup de ça, là, parce que quand on avait un joueur étoile, on l'échangeait parce que on disait que il faut absolument couper le
budget.
La liste de paye l'année d'après, puis tout ça. Avec Charles Bronfman, ça n'arrivait pas, ça. Même Charles, lui, il allait chercher des joueurs pour essayer de nous améliorer encore. Mais quand Claude Brochu est arrivé, ben ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, comme quand il y a eu la grève, là, ça nous a vraiment fait mal parce que on allait tout seul au championnat. On gagnait peut-être 8 matchs sur 10 là, régulièrement, puis les joueurs arrivaient au stade, puis ils savaient qu'ils étaient pour gagner, puis tout à coup, le 1er avril 1995, quand la grève est finie, en deux jours, on a laissé aller 4 de nos étoiles, Ken Hill, John Wetland, Marcus Grissom, puis Larry Walker.
Hey.
Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là.
Ouais.
Monsieur Raymond, vous avez parlé justement de M. Bronfman, père,
qui était un véritable passionné de baseball. C'était un des hommes les plus riches au pays à ce moment-là, qui possédait les expos. Puis à un moment donné, il a comme eu la prise de position qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec les expos, puis il a décidé de vendre le club. Qu'est-ce qui, à votre avis, est survenu à ce moment-là pour que, sans dire qu'il a changé son fusil d'épaule, mais qu'il a comme été incité à vendre l'équipe, parce que ça fait partie, un point central du documentaire qui est sorti hier, c'est qu'un grand passionné, un maniaque de baseball, ait la prise de position que c'est sans issue, on peut rien faire avec le club.
Ben, c'est sûr que dans ce temps-là, c'était plus difficile de faire de l'argent comparé à aujourd'hui, parce que même après que l'équipe a été vendue, les expos, ils recevaient de l'argent de Major League Baseball à chaque année, parce que à chaque année, les équipes les moins bien nantis, les 8 ou 10 équipes les moins bien nantis, ils recevaient un montant d'argent de Major League Baseball pour compétitionner. Mais moi, d'après ce que je sais, on recevait plus d'argent que le payroll de l'équipe. C'est pas juste cela. Là, on disait qu'on perdait de l'argent chaque année. Moi, je pense pas qu'on a perdu de l'argent.
On dépensait pas un beau bonne place.
Non. C'est comme aujourd'hui, les équipes reçoivent, je pense, c'est 225 millions par année. Le
partage de revenus, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Puis,
les droits de télévision.
Là, comme l'année passée, au club, il y avait un payroll, même pas de 75 millions, puis il a dit la même chose. Tu sais, ils font de l'argent, ces clubs-là. Il y a personne qui perd de l'argent au baseball. Mais dans ce temps-là, c'était un petit peu plus difficile, parce que l'argent américain valait cher, puis les joueurs sont payés en argent américain, puis nous autres, tout ce qu'on faisait ici à Montréal, c'était en argent canadien. Fait qu'il y avait déjà une perte là, de 10, 15, 20 % là, suite en partant. Mm-hmm. Mais moi, ce qui me faisait mal au cœur, c'est quand on s'attachait à quelqu'un, puis tout à coup, c'était une vedette, puis là, on l'échangeait, tu sais, puis pour presque rien. Là, les quatre joueurs que j'ai mentionnés.
C'est
là,
quatre All-Stars, là.
Fernando Seguignol, c'est le seul qui a joué plus que 10 matchs sur les expos après. Là. Ouais. Tu sais, lui, il arrivait dans l'échange de Ken Hill. Ouais. Ouais. Ben, ouais, c'est Guignol, il n'y a pas gros de monde au Québec qui se souviennent de lui. Là.
Ouais. C'est surtout qu'en plus, tu échanges Marcus Grissom, tu l'échanges aux Braves.
Oui, dans ta division.
Tu sais, t'améliores un adversaire direct.
Ah non, puis tu sais, on blâme le stade, puis on blâme. Hey, quand on gagnait, il y avait du monde. Il y avait des 40, des 50, puis on a même eu des 60 000 spectateurs dans le stade, là. C'était pas le stade, là, mais le stade, il a été brûlé par les médias, puis en tout cas, le gouvernement nous a pas aidés non plus. Tout ça, c'est un paquet d'histoires comme ça là, qui me font mal au cœur, puis encore aujourd'hui, je regardais ça hier, là, bon, d'où que c'est tabou le baseball à Montréal, tu sais, puis Gilbert, tantôt, il m'a dit que son petit-fils, là, il a 11 ans, il joue au baseball puis il joue au hockey. Mais son petit-fils, là, Gilbert, il n'a pas été capable de l'amener au baseball.
Vraiment.
Parce que ça fait 21 ans qu'ils sont partis. Puis les jeunes de 21 ans, là, ou mettons 22, 23 ans, ils n'ont jamais été au stade olympique. Ils ne savent pas ce que c'est le baseball majeur. Ouais. À moins que les parents soient allés ailleurs au baseball aux États-Unis ou à Toronto.
Et croyez-vous, M. Raymond, qu'un jour, on va pouvoir ramener nos enfants au stade ici à Montréal parce qu'il y a une équipe du baseball majeur qui va revenir dans la métropole?
Oh, je pense. Écoutez, si, moi, là, je pense que quand les deux dernières années, quand il y a eu les expos en 2003-2004, on allait jouer à Porto Rico.
Mais
ça,
oui.
C'était le début de la fin, là.
Ouais, ouais.
Si Tampa Bay était venu jouer ici 41 matchs, là, Tampa Bay, il serait à Montréal. Il serait à Montréal, puis parce que Stephen Bronfman et son groupe, ils voulaient construire un stade, ils voulaient construire une ville dans le bassin. Là. Fait que, tu sais, ça aurait tout changé, ça. On aurait du baseball. Mais là, je ne sais pas. Stephen Bronfman, il a de l'air pas mal silencieux depuis ce temps-là. Je pense que ça l'a découragé, ça.
Ouais.
Ah, puis c'est dommage qu'on ne l'entendait pas, justement, dans le documentaire hier. Ça aurait été un intervenant qui aurait été agréable d'entendre Stephen Bronfman.
Plutôt que voir le clown Samson.
David Samson, ouais, vous ne devez pas le porter très haut dans votre cœur.
Il était-tu arrogant, c'était
petit. Il n'a pas changé, pas d'une miette.
Ta petite tabaslac-là, là.
Ah non, c'était un petit baveux, là.
Ah. Mais vous l'avez vécu de l'intérieur, là. L'arrivée de Jeffrey Loria et de David Samson, je revoyais les images et conférences de presse hier. On dit toutes les bonnes choses, là. On va avoir une équipe gagnante, on va aller chercher des agents libres, vous allez voir, on va redonner l'équipe.
On nous mentait d'en face, Tony. On nous mentait d'en face.
Ça a dû être une chute drastique, M. Raymond, parce qu'on a réalisé peu après qu'on fait rire de nous, ils sont en train de nous saboter, là.
Exactement. Vous savez quel genre de travail il faisait, lui, hein, Loria?
Vendeur d'or.
Il vendait des arts.
Ouais.
Fait que, tu sais, la toile qui est là sur le mur, là, elle vaut peut-être 100$, puis lui, il vous la vendait 100 000. il est arrangé de main, puis après ça, il est allé à Miami. Là, il s'est fait construire un stade.
Et ça, c'est incroyable, pareil. C'est incroyable.
Il a vendu l'équipe un milliard et quart, je pense.
Ouais.
Il avait investi 200 millions là-dedans. Là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. On s'est vraiment fait fourvoyer, mais ça, en tout cas, il y en a d'autres qui sont peut-être plus responsables, là, mais moi, je trouve ça tellement, tellement dommage. Parce que moi, là, quand j'étais au baseball, là, je regardais les grands-parents arriver avec les petits-enfants, ou le père et la mère avec sa fille, ses filles et ses garçons, puis ils mangeaient des hot dogs, puis ça applaudissait, puis il y avait du fun, une belle journée familiale. Puis là, ça n'existe plus, là. C'est fini, fini, fini.
C'est Claude, quand tu jouais avec les expos, là, tu sais, dans 70, c'est moi, j'étais plus jeune, là, puis moi, je me rappelle là, très bien, puis je l'ai compté déjà au gars, là, tu sais, on stationnait sur la rue Saint-Laurent, là, puis là, on fallait marcher à travers le parc, puis au loin, on voyait les lumières du parc Jarry, puis calvasse qu'on avait hâte d'arriver, puis il y avait toujours, il y avait les clôtures, là, ils ouvraient les portes, on rentrait, puis je me rappelle très bien, là, il y avait un kiosque souvenir en rentrant. Là, ils vendaient, tu sais, des jackets, des expos, des balles, des casses, des... C'était extraordinaire, tu sais, puis les patates frites, puis chips, peanuts, Cracker Jacks, puis toute la patente. Ça a été une expérience extraordinaire, tu sais, puis... Malheureusement, les jeunes, la génération, tu le dis, là, tout à l'heure, les gars qui ont pas 25...
Ben, Oli est avec nous, il y a 24,
tu sais, même Hugo, tu sais, si vous avez pas 30 ans, là, voisin d'affaires, les expos, vous avez un vague souvenir en Simonac, là.
Oui, oui.
Et malheureusement... Ouais. Ça serait le fun de revivre ça, parce que ça a vraiment, là, puis dans ces années-là, quand que le baseball, il y a eu les Royaux de Montréal, tu sais, au stade de Laurier, mais quand que les expos sont venus en 69, ça a vraiment, il y a eu une effervescence pour le baseball mineur dans ces années-là, là, après ça, là. Tout le monde joue au baseball.
C'est sûr.
Exactement, puis essayez donc, en 69, 70, de trouver une casquette des expos en quelque part. Ils n'avaient pas, tout le monde les avait achetés. Mm-hmm. Il n'en restait plus nulle part.
Mm-hmm.
En tout cas, moi, c'est le plus beau sport, moi, là, puis c'est familial, puis tu peux jaser, puis tu peux prendre une bière, tu peux manger un hot dog, puis ça se déroule devant toi, puis ça dure entre 2h30 puis 3h30 de temps, puis tu sais, les gens venaient de Chicoutimi, ils venaient de Rimouski, ils venaient d'Ottawa, ils venaient des États-Unis. Moi, les fins de semaine, là, quand je partais de chez nous, de Saint-Jean, pour aller au stade olympique, je voyais autant de plaques
américaines,
de circulation américaine, puis des maritimes qui s'en venaient vers Montréal.
Mm-hmm.
Je ne sais pas où ce monde-là allait. Il y avait sûrement un paquet, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connaissais au Vermont, puis en État de New York, puis au Maine. Il venait, une fois par mois, venait voir jouer aux expos.
Mm-hmm.
C'était une fin de semaine. Des autobus de Chicoutimi, de Rimouski, de partout, de Gatineau, quand on faisait la caravane l'hiver, on avait du fun, puis le monde venait au baseball en autobus.
Mm-hmm.
Non, c'était... C'est dans ce temps-là, hey, Rusty Stable était populaire.
Ah oui.
La Grande Orange.
C'est sûr.
Ah oui.
Mac Jones, Jonesville.
Ben, Jonesville, oui. Ben, oui.
C'est Coco LaBoy.
Oh, c'est Coco LaBoy, oui, monsieur.
Tu sais, John Bacabella.
John Bacabella, oui.
Ça n'a pas des grandes étoiles, si on fait exception de Rusty, là, mais, hey, qu'on avait du fun. Puis...
Bob Bailey.
Monsieur Raymond, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler ce matin. C'est vraiment un honneur de vous recevoir sur le Club du matin. Puis on va vous souhaiter des bonnes séries avec les Blue Jays et avec Vladimir Guerrero Jr. Vous avez côtoyé le père, on va espérer que le fils fasse le travail en finale.
Absolument.
Oui, ben écoute, moi là, le baseball, c'est encore ma vie parce que durant l'été, là, à une heure et demie du matin, je regarde du baseball parce que je veux voir ce que Otani est capable de faire, je veux voir ce que Freeman est capable de faire.
Wow.
Je veux voir les meilleurs joueurs du baseball, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis je finis, à moins que ce soit un match vraiment, vraiment plate, là, mais je regarde ça, moi, jusqu'à une heure et demie du matin. Puis, je pitonne, je regarde trois matchs à la fois. Moi, là, c'est ma vie. Puis je continue à garder ça comme un spectateur plutôt que d'y aller. Puis essayer de capter une fausse balle dans les estrades, puis tout ça, là. Wow!
Ah oui,
en
tout cas, j'adore ça, moi aussi. C'est le fun d'aller au stade. Il n'y a rien qui bat ça.
En tout cas, j'ai adoré mon receveur aussi.
Ouais! C'est le meilleur, hein? Ben c'était qui tes gros catchers? C'était-tu John Bacabella ou John Bateman? Là?
Moi, mon meilleur, c'était Bateman.
Moi, je pense que personnellement, je pense que je suis un meilleur athlète que John Bateman.
t'étais un meilleur athlète que les trois ensemble. Ronnie Brent, Bacabella et Bateman.
Merci,
Raymond. Tu aurais été le meilleur athlète de notre équipe.
Salut, Claude. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Okay, bonne journée.
Bye-bye. Merci.
Ben
merci
ouais.
de parler de baseball. Merci.
Alors, c'est nous qui vous remercions. Claude Raymond, wow. Incroyable, absolument incroyable. C'est un honneur de l'avoir eu avec nous ce matin.
Il aime ça le baseball, lui?
Mais, 88 ans, t'es encore solide. T'es encore très, très solide. Tony, rapidement, t'as une anecdote sur David Sampson.
David Sampson, si on en parle, vous donnez une idée à quel point là, ce gars-là ne changera jamais. Il y a eu une cérémonie du Temple de la renommée du baseball à Cooperstown où Ichiro Suzuki a été intronisé. Puis David Sampson y est sur place et Derek Jeter aussi est sur place. Puis Sampson est invité par Ichiro. Souvent, fouillez-moi pourquoi.
Pourquoi?
Aucune idée. Ils se sont liés d'amitié probablement. Alors Sampson est là.
Ben, pourquoi? Parce qu'il a joué pour les Marlins.
Il a joué pour les Marlins, probablement,
ben oui,
dans le fait que, bon,
okay,
il était là.
Ouais.
Et puis, parce que quand que Jeter est arrivé comme actionnaire des Marlins, ils ont racheté le groupe de Sampson et tout ça, ils l'ont tassé tout de suite comme président de l'équipe. Dès qu'ils ont pris possession, bang, Sampson s'est fait congédier. Puis après ça, il a tombé dans la... dans le podcasting et tout ça, puis là, il déversait son fiel sur certains, dont Jeter, puis il n'a jamais toléré de se faire tasser par Jeter. Il se croise à Cooperstown, puis Sampson a trouvé le moyen, justement, « Hey, Derek, tu sais, ben, serrer la pince, parce que ça faisait des mois qu'il déversait son fiel sur lui. » Jeter est arrivé, dit « Toi, veux rien savoir de toi. » Il a jamais serré la pince. Puis
il a bien fait. Non, mais sérieusement, lui, c'était une face à claque.
Ouais, puis Sampson, il comprenait pas. Ouais, oh, Jeter, comment ça se fait qu'il m'insulte? Ben, je sais pas, là, mais il doit avoir des raisons.
Il a pas changé, le bon David. Non. On va aller à la pause de l'autre côté. C'est passé plusieurs matchs hier dans la Ligue nationale de hockey. On fait le tour de tout ça. Restez là.